Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Chaque semaine, je vais à la rencontre de personnes qui réinventent ou interagissent avec le monde de la comptabilité ou de la gestion d'entreprise. Experts comptables, entrepreneurs, directeurs financiers ou acteurs de l'écosystème, je cherche à dénicher pour vous les meilleures pépites pour comprendre comment designer son profil et devenir inarrêtable sur le marché du travail. Digitalisation de la fonction compta, outils tech, levée de fonds, indicateurs financiers, culture business, bref, tout y passe pour vous apporter un éclairage concret issu du terrain. Je suis Nicolas Piatkowski, cofondateur de l'école en ligne Les Geeks des Chiffres, qui a formé plus de 3300 étudiants de la filière expertise comptable et des millions d'autres sur YouTube. Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préférée avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti. Joël, je suis très heureux de t'accueillir sur ce podcast Les Geeks des Chiffres. Je voulais absolument t'avoir parce que toi, tu fais un truc, désolé, mais qui me chatouille un peu l'esprit. Okay. Donc, j'ai absolument envie qu'on puisse en parler. Mais avant, donc, ma première question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être expert comptable, Joël? Quelle idée folle as-tu eue à ce moment-là quand tu as choisi cette direction?
Écoute, c'est ultra particulier. Donc, j'espère que ça va créer des vocations, mais c'est vraiment particulier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour être très transparent, j'ai foiré à la fac. Je suis allé en BTS compta par recommandation de ma tante, qui est expert comptable d'ailleurs, qui est devenue expert comptable entre-temps. En fait, j'ai fait de la compta pour rester à l'école le plus longtemps possible. Et quand j'ai commencé à bosser en cabinet, avec mon bac plus 5 en poche, je savais même pas ce que faisait un expert comptable, mais pas du tout. j'ai découvert sur le tas le métier. Et je me suis dit, en fait, c'est un métier de dingue. Mais c'était même pas une vocation, en fait. Tu vois, c'était de la découverte. C'est pour ça que c'est bizarre. Et voilà.
Et c'était en quelle année, ça? Et c'était en quelle année que tu as commencé, du coup, à rentrer dans le cabinet?
L'année où je suis entré en cabinet, c'était en 2008. C'était dans un gros cabinet français. Hein, très gros, ils sont dans le top 10. J'ai découvert un métier qui était ultra passionnant parce que tu rencontrais des gens différents, toujours des projets divers et tout. C'était vachement sympa. Et par contre, je me suis dit, on peut faire beaucoup plus que juste faire de la compta. C'est ça qui m'a vraiment branché dans ce métier-là parce que ça touchait à la finance. J'ai eu la chance dans le parcours de travailler sur de belles boîtes et tout. C'était en 2008. J'ai commencé mon stage à ce moment-là. Après, je suis enchaîné, j'ai fait mon stage. J'ai mis un peu de temps à finir. Et voilà.
Ok, d'accord. Et donc, alors, sur la partie salarié, donc toi, tu es resté un certain nombre d'années, donc pour un peu structurer un peu ton parcours, tu as été à la fois salarié, tu as monté un propre cabinet et tu as fait une boîte qui s'appelle Vision. Ça, on va en parler après parce que ça, je vais te cuisiner un peu. Et du coup, si tu peux m'expliquer un peu quelles ont été les grandes lignes, quelles ont été les grandes missions que tu as faites d'abord en étant salarié.
En fait, moi, en étant salarié, j'ai commencé, comme je te disais, j'ai fait un an dans un cabinet qui est assez grand. Ils sont dans le top 10. Ce que j'ai appris dans ce cabinet-là, c'était comment structurer un grand cabinet, comment tu organisais les travaux, les démissions, comment tu étais bon sur tout ce qui était compliance, etc. Sauf que dans ce cabinet-là, ils payent au lance-pierre. Désolé, mais ils payent au lance-pierre. Et la petite anecdote qui m'a fait changer, c'est une fois, je suis en stage, pendant mon stage d'expert comptable, j'étais dans une promo de stagiaire. Comme tu fais entre stagiaires, tu papotes un peu sur les salaires, etc. Et puis, ils me disent tout ça. Écoute, moi, je suis à 2000 euros, moi, je suis à 2100, etc. Et on me demande, Joël, t'as combien, toi? Moi, j'étais à 1250 à côté de chez moi, tu vois, avec un bac plus 5. Et quand je dis ça, il y en a un qui m'a sorti un truc, il me dit, écoute, Joël, nous, si on rapporte au taux horaire, on est des smicards, mais toi, t'es au RSA, mon gars. Et là, je me suis dit, bon, allez, je change de cabinet. Ah ouais, donc, j'ai clair. Changé. Mais je regrette pas, j'ai appris plein de choses, il était juste à côté de chez moi, j'ai changé, j'ai fait un gap de salaire de dingue. D'ailleurs, c'est un truc qui est dommage dans la profession parce que souvent t'as le côté où il y a plein de cabinets où il faut que tu changes pour augmenter un salaire. Donc ça, c'était un truc. Je suis allé dans un cabinet du coup plus petit où il y a quand même 100 collabs, où j'ai eu la chance par contre là d'apprendre beaucoup de choses au niveau commercial. J'ai eu un maître de stage qui était formidable sur comment m'apprendre les techniques de vente, comment closer un client, comment tu écoutes les besoins de ton client en rendez-vous bilan, situation, etc. Donc là, j'ai appris le métier J'ai bien pris le métier d'expert comptable, mais bon, j'ai changé au bout de 2 ans et demi, parce que cet expert comptable-là qui était top, il était minoritaire sur le cabinet, et bien qu'il poussait tout le temps pour que je passe associé, le plus ancien, tous les 3 mois, il reportait mon entrée, et on m'a proposé d'entrer en associé directement sur un autre cabinet, où je suis rentré. C'est un cabinet plus petit, d'une quinzaine de personnes, mais qui était en toute proche banlieue parisienne, et l'expert comptable, il avait une particularité. J'étais encore stagiaire à ce moment-là, j'étais même pas diplômé, mais j'étais déjà associé. L'expert comptable, puisque je gérais un gros portefeuille, hein, j'étais efficace, je rentrais beaucoup de clients, cette réputation-là, voilà. L'expert comptable, il avait un parcours qui était génial, il avait un réseau de dingue, et du coup, ça m'a permis d'aller faire des missions sur de très très belles boîtes, de grosses startups françaises. Tu reconnais Sarenza, Orpi, Novedia, de très très grosses boîtes qui sont en France et à l'étranger. Donc j'ai pu faire des missions à l'étranger, aux US et tout ça, j'ai appris plein de choses. Et par contre, avec ces deux experts comptables avec qui j'étais associé, on n'était pas trop sur la même longueur d'onde au niveau du boulot. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, on part en vacances avec mon épouse et qui bossait avec moi déjà aussi. Elle bosse toujours, hein, c'est une des fondatrices de Vision, une des 3 fondatrices avec moi et Miana, avec Miana et moi plutôt. Et on part en vacances, elle me dit, écoute, il faut que tu changes de cabinet parce qu'en fait, tu dépéris. Et en rentrant, je dis à mes deux associés que je pars. Théoriquement, je devais partir avec les clients que j'avais rentrés, mais ce qui, tu sais, t'apprends dans la vie, c'est ça qui est marrant. Ce qui est écrit ne s'envole pas, le reste ça s'envole. Donc là j'ai appris comment ça s'envolait.
Ouais, c'est clair. Ah bah, c'est clair. C'est une grosse leçon. Ça c'est une leçon.
Du coup c'était en août 2012, janvier 2013, c'était le démarrage de mon cabinet. En partant de zéro, challenge de dingue parce qu'en fait avec Mylène on venait de se marier. Enfin on venait pas de se marier, on venait d'acheter une maison en juin et on avait mis tout notre apport dans l'achat de la maison. Et théoriquement, on devait repartir avec un portefeuille client de 160 000 euros, de quoi nous payer, quoi. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. On m'a dit, si tu le veux, tu le rachètes. C'était pas vraiment la musique. J'ai pas voulu racheter. Parce que de toute façon, je pense que la banque m'aurait pas financé, pour être clair, parce que j'étais au chômage, vu que j'étais parti. Donc, j'avais pas ça. Ouais. En janvier 2013, donc, on lance le cabinet avec Mylène. La banque nous refuse de financer 10 000 balles pour acheter les ordi et payer les licences d'Agiris, okay. Se hisser, tout ça à l'époque, tu vois. Il nous restait 10 000 balles sur les comptes pour pouvoir payer le crédit de la maison qui est à 3 000 balles par mois. On avait 2 mois et demi devant nous, même pas.
Donc là, tu fais le calcul, en 3 mois, t'es mort.
Du coup, on fait le calcul, 3 mois pour rentrer 120 000 euros de chiffre d'affaires. Sinon, on n'avait pas de quoi se payer le crédit de la maison et tout. Je me mets en mode charbon sévère. Je vais à tous les endroits où il y a des experts comptables, des entrepreneurs. Je rencontre plein de monde et tout ça. Et je prends tous les clients qui arrivent. Des grecs, des trucs, tout ce que t'as pas envie de prendre parce que c'est galère en compta. Je les prends au début pour pouvoir.
Ouais, donc ça veut dire que toi, dès que tu te lances, donc en fait, dès que tu te lances, tu pars avec Mylène. Vous partez de zéro. Donc là, en gros, vous n'avez pas d'argent. Pour pouvoir développer le truc. Cette petite expérience, de 2 ans et demi, si ma mémoire est bonne, dans la discussion au début, c'est que tu as fait beaucoup de développement commercial au début. Il y a un mec qui t'a finalement appris à identifier.
Ça, c'est le deuxième cabinet où j'ai appris beaucoup de choses. Après, j'ai changé pour un troisième cabinet où là, j'ai pu apprendre plus sur de très belles missions, de très belles boîtes, tu vois, les Sarenza, les grosses boîtes comme ça. Mais par contre, j'ai changé par rapport à... Alors, tu changes souvent pour 3 raisons. C'est soit le salaire, soit le manque de projection dans la boîte où tu es, ou soit la reconnaissance. Et en fait, moi, j'ai vécu les 3. Et du coup, maintenant, je m'oblige avec mes collabs à intégrer dans leur plan de carrière ces 3 points-là. Parce que je me dis, c'est ça que t'attends, tu vois. Et les stats, elles sont assez dingues. Parce que si tu corriges ces 3 points-là, tu corriges quasiment 92%, je crois, des cas de départ dans une boîte, dans un cabinet, tu vois. C'est assez fou. Et puis 2013, quand on a lancé Galère, c'était vraiment des nuits blanches et tout de dingue, hein, parce que en fait, c'était soit ça prenait très vite, soit Mylène ou moi, on devait retourner travailler en tant que salarié dans un cabinet. On a fait des montages pas possibles. On a d'ailleurs, j'ai encore merci à Agiris pour le coup à cette époque-là. Ils avaient accepté que je paye au bout de 9 mois mes licences. pour développer. On avait pris les ordi sur Cdiscount en paiement 12 fois et tout, mais la Roumanie, quoi, le truc, c'était ultra compliqué. Et au final, au bout de 3 mois, on a cartonné 120 000 euros de lettre de mission signée, on avait de quoi développer. Enfin, on avait de quoi, en tout cas, nous payer.
Comment t'as fait, du coup, pour avoir ces 120 000 euros de lettre de mission signée alors que vous n'avez rien, quoi? C'est quoi un peu la secrète, c'est quoi la sauce secrète qui a expliqué ce lancement fort, tu vois? Parce que globalement, les experts comptables, on n'a pas cette compétence allez, tu vois, tu vas chercher le client à fond, quoi.
En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui font la recette, je dirais, parce que ce n'est pas une secret sauce pour ce coup-là, c'est plus une petite recette. La première chose, c'est déjà, quand tu n'as pas le choix, tu bouges. Donc déjà, ça tu sais, quand tu n'as pas le choix, tu y vas. Hein. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours eu un côté, je pense, qui est une de mes grandes forces, c'est de l'empathie. Donc, à chaque fois que j'échangeais avec un de mes potentiels clients, je me mettais vraiment à sa place et je me disais, qu'est-ce que moi, je vais faire en tant qu'expert comptable ou qu'est-ce que je ferais moi en tant qu'expert comptable pour optimiser la fiscalité de la boîte et compagnie. Et je m'identifiais vraiment à la place de l'entrepreneur. Si tu veux, quand tu es un artisan que tu connais rien en compta, c'est ce que tu attends de ton expert comptable. Et j'ai fait ça à fond et j'hésitais pas à dire à mes clients, écoutez, envoyez-moi quelqu'un. Dès qu'ils m'envoyaient quelqu'un, commercial, quoi. Ils m'envoyaient quelqu'un, je leur envoyais une bouteille de champagne ou des cadeaux ou des trucs comme ça, en fait, direct. Et j'ai été recommandé comme ça tout le temps. On a fini première année en partant de zéro 265 000 euros, je crois, de lettre de mission signée. La deuxième année 500, la troisième année 1 million en partant de zéro dans un village de 2000 habitants. Tu vois, les gens venaient pour nous voir. C'est assez fou, quoi. Donc,
Et vous étiez combien, du coup, au bout de la troisième année? Vous étiez toujours tous les deux? Non, c'est pas possible.
On est de gros bosseurs, mais à ce point-là, non, ça aurait été compliqué. On était à peu près une dizaine, quelque chose comme ça, un cabinet d'une dizaine de personnes qui tournaient très bien et qui tournent toujours très bien. Ils tournent encore mieux qu'avant maintenant, mais c'est vrai que ça a été très rapide. Après, j'ai eu la chance aussi de faire des rencontres qui m'ont beaucoup boosté. Et vraiment, je pense que le gros truc qui a fait qu'on a développé vite, c'est que moi, si tu veux, je suis expert comptable. Donc, je suis fier d'être expert comptable. C'est un super diplôme. C'est classe et tout. C'est vraiment génial. Mais par contre, quand je rencontre un entrepreneur, même s'il n'a pas 8 ans d'études, en fait, j'écoute ce qu'il a à dire. Et j'apprends avec lui, en fait. J'ai toujours eu l'humilité d'écouter et d'apprendre des gens. Et en fait, t'apprends de tout le monde tout le temps. Parce que tu te rends compte que les gens, ils ont des parcours différents, ils ont des idées que toi auxquelles t'as pas pensé, qui te permettent de développer tout. Et j'ai eu, c'était là où en 2014, je fais la rencontre de manager du réseau d'agents immobiliers IAD. Donc est devenu là une licorne il n'y a pas longtemps, IAD. En 2014, j'ai rencontré de grands managers. C'était marrant, j'étais parti manger avec un client qui me présente deux managers d'IAD dans un grec, d'accord. Et le manager d'IAD, il essaye de me faire rentrer chez IAD en me faisant une présentation de son réseau sur les nappes en papier, tu sais, il commence à écrire dessus et tout. Et il me dit, ouais, et je lui dis, écoute, mais tu gagnes combien, etc. Il me dit, je suis au plafond micro-entrepreneur, je suis à 33 millions. Je dis, écoute, franchement, ça a l'air bien ton truc, mais moi, je suis expert comptable, j'ai pas de suivre pour être au SMIC, en fait, c'est pas possible. Je veux dire, j'ai pas fait tout ça comme étude pour être au SMIC.
C'est clair.
C'est pas, j'ai rien contre les gens qui sont au SMIC ou qui aiment moins ou quoi, mais c'est pas été mon choix de vie. Moi, j'ai bossé à l'école et en faisant de longues études pour pouvoir faire un métier qui rémunère bien, faut être clair. Bref, il me dit non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, j'ai pas tout mis dans mon. J'ai pas intégré encore tout mon chiffre d'affaires. En fait, il gagne plus que ça. Et je lui dis, ah, écoute, il faut que tu changes de régime, tu vas passer sur ce régime-là, etc. Et il me dit, ah, mais il faut que tu expliques ça à tous mes filleuls chez IAD. Je lui dis, pourquoi il parle filleul? Parce que c'est une boîte qui est en marketing de réseau.
C'est quoi ce truc?
C'est quoi les filleuls et puis les filleuls? Vraiment, t'as pas 50 fioles, quoi. Bref, et du coup, je commence à. Il m'explique tout le modèle d'IAD qui consiste en, à être rémunéré en accompagnant des gens dans le métier que tu fais. Et je vois des gens qui s'éclatent, des gens qui gagnent bien leur vie, qui profitent de la vie, qui ont du temps libre, etc. Je me dis, mais en fait, je adore mes potes d'IAD, donc je sais qu'il y en a plein qui vont écouter, mais j'étais ultra jaloux d'eux. Je me dis, en fait, c'est pas possible. Ils ont pas fait autant de sacrifices à l'école que moi, mais en fait, eux, ils profitent de tous les week-ends de janvier à mai, ils vont au ski, ils ont de belles rêves et tout ça. Et je me dis, il faut absolument que j'intègre cette magie dans l'expertise comptable, ce modèle dans l'expertise comptable. Et donc, bon, voilà, je sympathise avec plein de managers IAD. J'ai la chance de rencontrer les dirigeants d'IAD, donc Malik Benrejda, le grand patron, qu'on appelle chez IAD la vision. Tu vois, ça, c'est marrant d'ailleurs. Et Malik, en fait, on sympathise, mec. C'est un mec extraordinaire, hein. Une réussite de dingue, mais qu'en fait, quand j'ai rencontré, il me dit, c'est pas possible d'avoir une réussite si importante et d'être aussi humble. Je lui dis, c'est pas normal. Et du coup, on sympathise bien, etc. Et puis, on avance sur la création d'IAD Portugal. Parce que IAD était juste en France, et du coup, bah, moi, je propose de lancer IAD au Portugal. Bon, t'as vu le nom que j'ai, il est d'origine portugaise. Hein. C'est vrai qu'on pourrait penser que je suis brésilien, mais je suis que portugais. On n'est pas un champion du monde, hein, et que champion d'Europe. Bref.
C'est déjà pas mal, hein, franchement. Une bonne place, déjà, tu sais.
Et du coup, bon, on se rend compte avec Malik, on avance avec Malik, d'autres grands managers d'IAD qui sont devenus des potes entre temps, Brian, Tony, Vincent, entre autres. Et on lance IAD au Portugal, donc on rend IAD international. Et moi, ce que je voulais, c'était comprendre.
Alors, juste pour préciser pour les auditeurs et les gens qui vont regarder, c'est quoi le business model d'IAD
en fait, d'accord.
Comment ça marche? C'est quoi
IAD,
le
métier d'IAD, c'est de faire de la transaction immobilière. Donc, en gros, c'est comme Orpi. Tu as des agents mandataires qui vont aller chez un particulier qui veut vendre son bien, ils vont récupérer un mandat, ils vont publier ce bien sur des sites comme Bien Ici ou quoi. Et derrière, tu as des acquéreurs qui vont vouloir acheter ce bien et ils touchent une com pour la mise en relation. D'accord? La particularité d'IAD, c'était quoi? C'est qu'ils ont eu la vision il y a longtemps, en 2008 d'ailleurs, quand ils ont immatriculé, de se dire on part du principe que les agences immobilières vont être digitalisées, vont se retrouver sur le web, que les gens vont aller de moins en moins sur en agence classique et vont chercher les biens en vente sur Internet. Et on va partir d'un schéma où on va rendre ce métier ultra agile en ayant des agents mandataires mobiles qui bossent de chez eux et non plus des agences. Du coup, comme ça, en donnant la possibilité à tout un tas de personnes d'intégrer ce métier via de la formation, etc. etc. Et donc bon, il y a ils ont commencé en 2008 dans le 77. Là, il y a 16 000 agents sur la France. C'est le numéro un en nombre d'agents. Et normalement, ils deviennent le numéro un en chiffre d'affaires. Ils dépassent Orpi cette année. Donc, c'est quand même une machine de guerre, hein. Il y a 60% de croissance chaque année, c'est dingue. Ils viennent de faire une levée de fonds de 300 millions d'euros et tout ça. Et en fait, moi, quand je les avais rencontrés, ils avaient déjà une réussite extraordinaire, mais ils n'étaient pas du tout à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, où j'ai apporté à IAD, entre guillemets, parce que sans compter tout ce qu'ils m'ont apporté, hein, d'accord, clairement, ils m'ont vraiment fait grandir énormément. J'ai aidé IAD à devenir international, en fait, à montrer que leur modèle est escalable au niveau d'autres pays. Et là, au Portugal, il y a plus de 1000 agents maintenant, etc. Donc moi, j'étais associé directeur général de cette boîte-là, de 2014 jusqu'à juillet 2016. Et j'ai cédé mes parts, je suis sorti. Et en août 2016, j'ai lancé Vision pour intégrer la même magie dans l'expertise comptable, en fait. Parce que quand j'étais dans mon cabinet, je me disais, bon, je me débrouille très bien, je suis rentré des clients, mes clients sont contents de mon boulot et tout. Par contre, je surveille beaucoup ce qui se passe au niveau d'autres métiers, au niveau dans Silicon Valley, toutes ces structures, tout ce qui est tech, etc. Et je me disais, bon, en fait, soit j'arrive à faire évoluer vite mon métier pour être en capacité d'offrir à mes clients ce dont ils ont besoin et pas juste envoyer des TVA, des bilans. Soit en fait, à un moment, je vais être en difficulté. Et le problème, c'est que les clients, bah, ils demandent de l'info instantanée, ils demandent que tu saches tout sur tout, tu vois. Je veux dire, moi, je suis un excellent expert comptable sur les startups, l'immobilier, le marketing de réseau. Par contre, j'ai de bonnes connaissances en gestion de patrimoine, mais je ne suis pas du tout le plus calé. Il y a beaucoup d'experts qui vont être plus calés que moi. Et je me dis, bah, en fait, moi, à un moment, si je ne suis pas en capacité d'offrir à mon client ce service 360, il risque de se barrer parce qu'il peut oublier que j'étais très bon sur des domaines parce qu'il y a un domaine où je ne suis pas bon. Et de là, je me dis, bah, il faut que je crée un modèle où, en gros, chacun reste indépendant parce que c'est un truc fondamental dans la profession. L'expert comptable veut être le patron chez lui. C'est ultra important. Par contre, avec la force d'un big, être en capacité d'offrir tous les services à un client. Et de là, bah, le modèle du marketing de réseau où, en fait, c'est donc un réseau très intégré où on partage énormément de choses entre confrères, mais chacun reste indépendant. C'était l'idéal. Et je voulais pas, tu sais, c'était le fameux truc think out of the box. Je voulais pas repartir sur les modèles on rachète un cabinet ou on s'associe à 50. Non, je voulais pas parce que en fait, je veux créer une dans l'expertise comptable, la première et aujourd'hui c'est la seule boîte au monde qui est scalable dans notre métier. Aujourd'hui, tu vois, nous on a un modèle qui fait que Vision a une, on est particulier parce qu'on n'est pas un cabinet traditionnel, etc. Donc on n'est pas sur les mêmes granularités de valorisation qu'une boîte traditionnelle. Hein, faut être clair, on est dans ce qu'on appelle la fintech, etc. Donc on a des valos qui sont assez dingues parce qu'en fait on a une scalabilité extrême. Et parce que chaque cabinet chez nous est scalable. En fait, un cabinet chez nous peut avoir des charges fixes qui bougent pas, et par contre un chiffre d'affaires qui explose. Et ça, il y a personne qui est capable de le faire, sauf nous. Donc voilà.
Ok. Alors, si tu peux expliquer concrètement le modèle Vision. Donc toi, tu es au service des experts comptables. On est bien c'est d'accord. Ça. Dans le projet que tu mènes. En gros, c'est quoi l'intérêt pour un expert comptable de rejoindre ton réseau? S'il décide de rejoindre, comment ça marche? Combien ça lui coûte? Toi, combien ça rapporte? Mm-hmm. Comment tu gagnes ta vie avec ce projet? Comment tu arrives à finalement tisser ton étoile? Parce que c'est un peu ça que moi je vois. Enfin, moi je trouve que c'est remarquable ce que vous avez fait. Franchement, c'est incroyable.
Ah, merci. Bah, en fait, nous, l'idée de Vision, c'était vraiment... je voulais, dans mon objectif, c'était de rendre à l'expert comptable une image ultra noble parce que je veux que l'expert comptable soit reconnu comme le référent absolu de l'entrepreneur, en fait. Je veux que quand tu dises expert comptable, tu dis c'est encore plus classe qu'avocat ou notaire et pourtant il n'y a pas écrit maître. Moi, je veux ça, en fait. Et du coup, un peu comme notre président d'ailleurs, hein, c'est fier d'être expert comptable, etc. Je suis complètement phase avec ce que dit Lionel Canizi sur ça, justement. Mais en fait, moi, mon objectif, c'était de me dire, voilà, je veux unifier la profession en offrant à n'importe quel expert comptable la possibilité d'offrir à ses clients les mêmes services qu'un grand cabinet pourrait offrir à ses clients. Et même arriver à un modèle où on offre à la TPE le même service que va avoir un Danone. D'accord ? C'est ça l'objectif. Et par rapport à ça, bah on a étudié vraiment ce dont avait besoin un expert comptable pour cartonner. Et on est arrivé au postulat suivant, c'est que le cabinet comptable doit évoluer, devenir une entreprise de comptabilité. Ça devient un produit, un service, avec forcément beaucoup d'humains parce que la compta, quand on parle à quelqu'un qui comprend pas la compta, c'est anxiogène. c'est direct. Ça stresse tout le monde.
Tu m'étonnes.
Donc,
l'entrepreneur, il a pas envie de s'occuper de ça, tu vois. Il dit non, laisse-moi tranquille. Faut voir avec mon expert comptable.
C'est vraiment ça. Et du coup, l'idée de que certains avaient de se dire, bah, en fait, on fait une boîte uniquement tech pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Moi, c'est un truc que je n'ai jamais assimilé dans mon esprit parce que ça se voit que c'est des gens qui n'ont jamais parlé avec un entrepreneur de compta. Parce qu'en fait, un entrepreneur, il a besoin d'avoir de l'explication, il a besoin d'avoir des échanges avec un humain, en fait. Et contrairement à toutes les boîtes de tech qui sont lancées dans la compta, nous, on a fait un autre schéma. On est parti d'un truc que j'avais lu, que j'avais trouvé génial, qui était Monkey First. Monkey First, c'est un cours qui donne à Stanford ou Harvard, je ne m'en rappelle plus, un des deux. Et en gros, dans ce cours-là, on demande aux étudiants, oui, voilà, vous avez un gros projet à faire. Le gros projet, c'est vous devez organiser un événement avec 15 000 personnes dans une belle salle avec une estrade géante, des effets pyrotechniques et compagnie. Et le spectacle, en fait, tourne autour d'un singe qui danse. D'accord ? Comment vous organisez votre spectacle ? Et puis, tu as tous les élèves, quasi tous les élèves, qu'est-ce qu'ils mettent ? Ils disent, bah voilà, je vais mettre une billetterie en ligne, je vais trouver un lieu, je vais chercher les meilleures personnes pour faire des effets, etc. Sauf qu'en fait, tout ça, quelqu'un l'a déjà fait. Tout ça, ça se fait, c'est pas compliqué à faire. Ça se fait, voilà. Par contre, trouver un singe qui danse, ça n'existe pas. Tu vois ? Et du coup, nous, on est parti du coup de l'expérience que beaucoup de boîtes d'account tech avaient eue, à savoir bah, créer des outils digitaux qu'on leur fourgue aux clients pour des cacahuètes, etc. Et en fait, ils galèrent tous à développer leur machin. Parce qu'en fait, à la fin, ils vendent leurs produits, mais à la fin, il n'y a pas un humain derrière pour expliquer aux gens. Et du coup, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, on va créer un réseau d'humains bien formés, avec des compétences en soft skills, avec de l'empathie, de la bienveillance envers les entrepreneurs, etc. Et à ça, on va pluguer des outils. Parce qu'en fait, c'est plus dur de créer un réseau humain avec de la cohésion que de créer un outil technologique sur ce qu'on fait. Il n'y a pas de barrières monstrueuses en termes de techno dans ce que l'on fait. Je veux dire, on n'est pas en train de dire on crée SpaceX avec la volonté d'aller sur Mars. On fait juste des algorithmes pour faire des calculs comptables. Donc, il n'y a pas de barrière technologique de dingue, en fait. Par contre, la barrière, elle était liée à la compétence humaine, à la compétence des humains qui étaient derrière. Et du coup, on est parti de ce postulat de dire on va d'abord faire le plus dur qui est de créer un réseau humain dans cette profession. C'est pas évident parce que l'expert comptable, il a fait ses études, il rêve d'avoir son cabinet à son nom, il a des fois beaucoup d'ego sur des trucs et puis il a pas appris à des fois écouter parce que ta formation, elle est comme ça. Tu sais, quand tu es en formation, expérimentale, en gros, on te matraque un peu dans ta tête, t'es l'élite en fait. Et des fois, t'oublies d'apprendre à écouter les autres. Et ça, c'est pas bon. Et du coup, voilà, on est parti ce postulat, on a lancé Vision comme ça. Et l'objectif, c'était du coup, comme je disais, de donner à tous les experts comptables les capacités pour faire que leur cabinet devienne une entreprise de compta. Donc, gérer tout ce qui est la partie tech, brancher les outils pour que ce soit le plus fluide, le plus optimisé, le plus rentable possible. À ce titre-là, on a d'ailleurs créé une GI en interne qui nous a permis d'être à la fois statut JEI, jeune entreprise innovante, et puis aussi du crédit pour recherche, ce qui est assez extraordinaire.
Okay.
C'est un outil qui n'existe nulle part dans le monde. Hein. Il est complètement intégré, tu as tout. Tu peux faire tes lettres de mission, tu peux faire tes devis, tu peux faire les prélèvements, ils sont automatisés, relancer les clients pour les paiements, les machins. Tu fais tout un tas de trucs que personne ne fait aujourd'hui et qui, juste ça, fait gagner, par exemple, 4 jours de travail administratif sur un cabinet qui fait 350 à 400 000 euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment automatisé à l'extrême. On a intégré voilà, tout un tas d'outils pour que en gros, l'expert comptable n'ait pas à se soucier de comment je restitue l'info à mon client via une app ou quoi. En fait, il n'a pas besoin d'aller chercher des prestataires pour mettre une app en place, pour restituer de la data visée. Tout ça, on gère nous tout. Comme ça, lui se focus sur son boulot. On s'occupe évidemment de tout ce qui est commercial. On forme les experts à être de bons commerciaux et évidemment, si on a vu la taille que l'on a eue, la croissance que l'on a eue, on a réussi à se faire un nom auprès de très grandes entités qui nous envoient aujourd'hui des clients de manière très régulière. Quand tu as un cabinet, tu vois, la stat nationale, c'est un expert comptable qui se lance, il signe la première année d'activité 60 000 euros de lettre de mission. Nous, quand il vient chez Vision, il signe 150 000 euros et il facture à un taux qui est plus élevé que ce qu'il ferait normalement parce qu'on lui apprend à vendre au bon prix, tu vois. Donc il y a ça, après il y a évidemment tout ce que l'on fait en com qui nous permet d'être très attractif aussi en termes de recrutement. C'est un gros problème de la profession, mais moi tu vois, ça c'est marrant, mais sur le cabinet que j'ai à lieu fin, j'ai pas de problème de recrutement, j'ai toujours 7 à 10 CV d'avance, en fait j'ai pas de problème de recrutement parce que les gens qui sont ici, ils ont pas envie de partir. En fait, on a mis en place toute une stratégie RH qui fait que les gens, bah, ils ont le salaire qui est juste par rapport à leur boulot. Ils n'ont pas besoin. Tu vois, j'ai un truc dont je suis méga fier. J'ai jamais eu un collab qui m'a demandé une augmentation. Parce que je surveille tout le temps si son salaire, il est en adéquation avec le marché, en fait. J'attends pas qu'il vienne me dire je suis sous-payé. Non, il n'a pas cette question en fait. Et ça, c'est notre stratégie. Donc, on offre voilà, toute cette partie communication. On a une grosse université de formation en interne aussi sur de la démarche commerciale, mais aussi là, on est en train d'intégrer tout un tas de choses pour apprendre à un collab à monter comme il faut son dossier de travail pour simplifier la vie des experts comptables. En fait, il a un collab qui vient, tiens, bah, passe en formation, comme ça, tu sauras comment monter le dossier, etc. Ce qui soulage énormément l'expert. Enfin, on a le côté du marketing du réseau qui est, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau sur le gâteau. En gros, parce qu'en fait, un expert comptable chez nous va être rémunéré à la fois sur la production qu'il va faire en comptabilité, donc sur les clients qu'il va traiter, et aussi sur l'accompagnement et la réussite des experts comptables qu'il va parrainer. Il touche un pourcentage du chiffre d'affaires de l'expert comptable qu'il a parrainé, et il touche même un pourcentage du chiffre d'affaires des filleuls de son filleul, en fait. Ce qui fait qu'il a une rémunération qui explose. Nous, on a des experts, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on a certains, sur l'année prochaine, ils vont largement dépasser les 120, 140 000 euros de chiffre d'affaires juste comme ça. Et la particularité de ça, c'est contrairement à de la compta classique, hein, parce que des fois, t'en as, ils vont te dire, ouais, mais 120, 140, c'est pas beaucoup. Parce que des fois, c'est quand les jaloux, ils ont toujours un truc à dire, ça, c'est marrant. Mais 120, 140 000 euros, c'est énorme, dans le sens où c'est du résultat. Parce qu'en fait, t'embauches pas un salarié, en compta pour gérer ça. C'est de la marge. Tu vois, donc en fait, nous, par exemple, on a quelqu'un qui fait 120 000 euros de chiffre d'affaires avec le parrainage de ses filleuls. Pour lequel, bah, par exemple, tu peux avoir 20 filleuls et en fait, tu n'en accompagnes que 3 parce que tu n'accompagnes que ton premier niveau. C'est le modèle de la duplication. Évidemment, tu vas aider aussi tous les autres quand ils te sollicitent, mais ton travail, c'est vraiment d'accompagner ton premier niveau, tes filleuls directs. Si tu dis que tu fais 120 000 quand tu fais un peu de compta et que tu dis que déjà ton cabinet il paye tout le reste des charges et compagnie, tu es en TNS, ça te fait une REM de 7000 balles direct dans la poche en plus de ton salaire d'expert comptable. Voilà. C'est clair, c'est précis.
Ouais, c'est clair.
C'est violent. Et alors que la profession, on ne tourne pas à 7000 euros de salaire. C'est ça qui est assez dingue. Et comme, en gros, on a. Et forcément, quand on offre tout ça, nous, on a un coût parce que négocier des partenariats nationaux avec des partenaires nationaux et des exclusivités avec de très grands groupes, tu le fais pas tout seul, ça a un coût. Tu veux optimiser ton cabinet et avoir des services R&D, etc., ça a un coût. Donc nous, en fait, systématiquement 15% qui reste pour Vision, pour ces services-là. D'accord ? Donc il y a 15%, et après il y a la rémunération multiniveau qui s'ajoute à ça, comme du parrainage, etc. Mais ça va du coup de 15 à 25%. Des fois, on me dit, ouais, 25, ça fait un petit peu. Je dis, oui, mais en fait, est-ce que tu sais combien un grand cabinet prend sur chacune des entités? Il prend plus que ça. Et ouais, il prend plus que ça, et par contre, il redistribue rien. C'est le modèle, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est la vie, et il tourne bien. Mais ce qui est assez marrant, c'est que souvent, t'as les personnes qui peuvent bloquer sur des choses en disant, ouais, 25%, c'est beaucoup, mais en fait, quand ils sont pas chez nous, ils facturent une mission à 1000 balles et quand ils viennent chez nous, ils sont capables de la facturer à 1500 parce qu'il y a les outils et parce qu'il y a le réseau. Tu vois ? Donc, ouais.
Ouais, c'est clair.
Bah ouais, mais en fait, ça paraît.
Donc, ouais, c'est vraiment trop bien parce que donc il y a un des problèmes, en tout cas dans l'expertise, mais ça, c'est pas un problème, c'est que de toute façon, tu n'es pas entrepreneur. Donc, l'expert comptable, une fois qu'il a fait ses 8 ans d'études, bah, il a son bagage technique, donc c'est son produit. Mais s'il ne sait pas le vendre et s'il ne sait pas le structurer, il est mort en fait. Donc, c'est un entrepreneur, il peut avoir le produit le plus génial du monde, les compétences les plus incroyables. Mais s'il ne sait rien en faire, bah, malheureusement, ça ne marchera pas. Donc, en fait, toi, tu es parti finalement à la base de l'expert comptable. Tu dis, toi, tu as un très bon produit, développe-le et deviens incroyable. Et moi, je vais t'aider sur la structuration des outils, sur je vais te former à devenir un bon commercial, etc. etc. En fait, toi, tu prends tout le reste pour que tu sois un bon entrepreneur.
En fait, si tu veux,
sur sa partie, juste à lui.
Si je devais schématiser, moi, je te dirais que c'est encore presque différent. C'est qu'en gros, nous, l'expert comptable, quand il rejoint Vision,
dis-moi.
Moi, je pars du principe que quand tu as ton diplôme, tu as ton permis de conduire. Et quand tu viens chez Vision, je te donne les clés de la Ferrari. Je t'apprends à piloter une Ferrari et je te laisse conduire la Ferrari. C'est ça le vrai sujet. Parce qu'en fait, souvent, c'est vrai qu'il y a ce côté, quand tu as le diplôme, tu crois que tu es arrivé. Mais en fait, non, la vie commence maintenant. Maintenant, tu as le droit de monter ta boîte.
C'est ça.
Et maintenant, tu as le droit de commencer à voir tout un tas de facettes que tu n'avais jamais vues dans ton métier parce que tu étais directeur de mission. Mais le directeur de mission n'a pas à se poser de questions comment il fait pour payer ses salariés, n'a pas à se poser de questions comment il fait pour offrir une expérience client qui soit top, n'a pas à se poser de questions comment il fait pour que les clients payent au bon moment et ne jamais se retrouver avec des soucis de trésorerie. Tu n'as pas tout ça. Et nous, en fait, quand on rentre chez Vision, tout ça, c'est du... D'ailleurs, il y a des fois, il y a des confrères qui nous disent, qui sont dans le réseau, ils disent, mais en fait, Vision, ça fausse tout parce que quand tu rentres, tu crois que c'est facile de lancer ta boîte en compta. Bah ouais, parce que c'est tout confort. T'arrives, t'es dans une Ferrari, en fait, c'est abusé. T'arrives, tu viens chez nous, tu suis les méthodes, tu tapes 150 000 de chiffres. Qui, dans la profession, peut dire ça? Personne. Personne. Et c'est des clients qui appartiennent
c'est
à l'expert.
C'est une belle promesse, en tout cas.
Et c'est des clients qui appartiennent à l'expert. T'as personne qui fait ça. Donc c'est vrai que nous, c'est Ferrari. Voilà.
Trop bien, trop bien. Moi, je kiffe la Ferrari. Et du coup, bah, toi, comment t'es perçu, en tout cas, dans la profession? Parce qu'en gros, c'est comme si que tu fais... Alors, j'essaie d'avoir deux visions. Moi, dans la vision entrepreneuriale, je trouve ça juste incroyable, tu vois. Parce que là, t'apportes un vrai service. Parce qu'en fait, si tu structures correctement l'expert comptable, forcément, l'expérience client, elle sera... incroyable. Donc, c'est lui aussi que tu veux servir aussi à la fin, que le client, il se dise, OK, mon comptable, il me sert à quelque chose, il va m'accompagner sur des sujets dont lui est expert, quoi. Et toi, comment t'es pris par, dans l'univers de la profession, les gens, ils doivent te dire, t'es un malade, quoi.
En fait,
excuse-moi du
oui,
terme.
Oui, mais... moi, au début, c'était dur au début. J'avais des confrères qui envoyaient des courriers à l'ordre pour me convoquer parce que on faisait de la communication sur Facebook et il fallait pas. Et puis après, pour que je sois convoqué parce que notre modèle, il était pyramidal selon eux et blablabla. J'ai eu tous les trucs de la planète. Donc, j'étais convoqué quelques fois au début jusqu'au moment où j'en ai eu un petit peu marre et j'ai rappelé qu'en fait, nous, on était en complète légalité, que s'il fallait que je revienne, je reviendrai la prochaine fois avec un avocat parce que j'ai pas le temps d'aller tous les jours à Paris. Parce que, bah oui, je sais qu'il y a plein de... Moi, tu sais, les gens connaissent, en fait, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est pas grave, mais je serai honnête, je serai droit. Et les gens qui me connaissent, souvent, ils m'apprécient énormément parce que je suis droit, tu vois. Et ceux qui m'aiment pas, c'est souvent des gens qui me connaissent pas et qui me prêtent de mauvaises intentions. Moi, aujourd'hui, mon rêve, je leur dis, ça a toujours été d'unifier la profession, de créer quelque chose de grand. Je suis pas omnubilé par l'argent. Je suis omnubilé par voir jusqu'où je peux aller, en fait. Je m'en fous de l'argent, clairement. C'est pas un truc que, d'ailleurs, tu vois, entre guillemets, je m'en fous. Évidemment, je veux gagner quand même bien. J'ai pas envie de j'aime bien mon confort, etc. C'est une certitude, comme tout le monde. Mais, je suis pas omnibulé par ça. Et comment je suis perçu? C'est tout simple. T'as des gens qui trouvent que ce que l'on fait, c'est génial. Et puis, t'as des gens qui n'aiment pas parce que, il y a tout un tas de raisons et c'est humain. Hein. T'as des gens qui ont peur, t'as des gens qui comprennent pas. Et souvent, en fait, quand ils viennent voir qui on est, ce qu'on fait, qu'ils rencontrent des gens du réseau ou des gens du siège Vision, etc., ils disent, ouais, en fait, non, c'est des gens qui font leur bout de chemin, qui avancent et qui ont envie d'avoir un métier pendant longtemps. Moi, mon objectif de base, c'était simplement, je veux faire quelque chose qui me permette d'être sûr d'avoir un métier pendant les 35 ans qui arrivent. Parce que j'avais pas, je me dis, si j'ai.
Et c'est quoi ton rêve avec cette boîte?
Mon rêve, c'est d'être le premier.
Avec cette boîte, ouais. C'est quoi ton rêve avec ce projet?
Le rêve, je dis nous parce que c'est mon rêve, c'est aussi celui de Miana et de Mylène. Après, c'est vrai que c'est plus moi que eux deux pour le coup parce qu'ils sont beaucoup plus simples que moi. Moi, j'ai un côté où j'ai besoin de montrer que même si j'étais né portugais dans un quartier tout pourri, je peux faire de grandes choses, tu vois. Mais, moi, mon rêve, c'est de faire de Vision le premier GAFA européen. Tu vois, j'ai toujours eu cette croyance de me dire, les Américains, ils ont une avance telle sur tout ce qui est réseaux sociaux, moteurs de recherche, bon, les GAFA, quoi, qu'on pourra jamais rattraper, nous, en Europe, ce qu'ils font. Par contre, en Europe, on est en avance sur eux, sur tout ce qui est le légal, la fintech, etc. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les Américains sont en train d'investir de manière massive dans les fintech et la comptech et les légal tech européennes. Donc, je suis content parce que je me dis que ce qui avait été imaginé il y a 5 ans, on avait complètement raison. Et aujourd'hui, ouais, le rêve de Vision, c'est d'être le premier GAFA européen. C'est quelque chose qui paraît démentiel. Quand on en parlait il y a 5 ans, je me dis, les gens ils se foutaient de ma gueule. Aujourd'hui, tu vois, ils se foutaient de ma gueule. Je redonne le truc. Hein. Il y a 7 ans, la banque avait refusé de me financer 10 000 euros. D'accord ? Aujourd'hui, je ne vais plus en banque faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est le directeur d'agence qui m'apporte mon chéquier ici, hein, au bureau. D'accord ? Aujourd'hui, on est la banque où les banques où on est veulent investir des millions d'euros chez Vision. On n'est pas du tout dans le même truc qu'avant, en fait. Ça, c'est assez dingue. Et autant avant, c'était quelque chose qui était inconcevable. Et en fait, tous les gens qui ont suivi Vision depuis le début, on a respecté notre roadmap à la lettre. On facture aujourd'hui des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sans avoir fait une seule levée de fonds, en fait. Si tu veux, c'est assez dingue parce que c'est ça qui me fait des fois marrer. Si je me dis, oui, il y a des levées de fonds qui sont sur des montants astronomiques alors que les boîtes ne font pas de chiffres. Tu vois que des fois, les investisseurs, ils mettent de l'argent sur des trucs où ils n'ont pas une assez grande connaissance du métier. Parce que je donne pas de nom, mais des fois tu vois des trucs pour de l'ossérisation ou je sais pas quoi. Oui, c'est le futur, c'est le futur, rien du tout. Il y a Facture X qui arrive, ça va être terminé. Donc, t'en as pour 2 ans et demi de vie, mais c'est pas grave. Mais en fait, tu vois, c'est des trucs. et du coup, après, je suis un peu. Je vis le truc. Hein.
T'es taquin.
Ouais, je suis taquin. Ah ouais. Mais c'est assez marrant parce qu'en fait, ça montre aussi à quel point notre monde est mal connu du grand public et même des fois des fonds d'investissement qui ne voient pas en fait où se trouve vraiment la richesse. Mais la richesse, en vrai, elle se trouve dans l'humain, dans le cabinet et dans toute la donnée que l'on a si on arrive à la structurer, à l'utiliser. C'est juste incroyable. Donc oui, nous, notre ambition, c'est ça. Pour être très clair, on est complètement sur le trend qu'on avait fixé au début. Donc voilà, c'est des fois j'ai du mal à croire ce qu'on a réussi à faire et ce que aujourd'hui Vision vaut. C'est assez dingue. Voilà, c'est un travail de dingue. Et des fois, on me dit, est-ce que t'as pas peur de te faire copier? Et je dis, franchement, comme dans Tekken, hein, bon chance, allez, amuse-toi. Oublie ta vie pendant 5 ans, mets un paquet de thunes, oublie ton salaire et après, tu as envie de faire Vision.
Ouais, après, c'est la loi du business, quoi. Et finalement, celui qui sera le plus. Toujours sur le terrain et il y arrivera, quoi. Moi, je pense que vous avez construit quelque chose de fort. Ça a été quoi un peu les étapes les plus difficiles que tu as vécues dans ce parcours depuis 5 ans avec
les étapes, en fait, si tu veux, ça a été première année, c'était beaucoup de défiance et de méfiance de la profession, même des fois d'un conseiller régional de l'ordre en particulier, d'ailleurs, qui était vraiment assez chiant. Maintenant, ça y est, ça s'est terminé. Et on a même la chance d'avoir pas mal d'experts qui sont des élus de l'ordre des experts comptables et même au Conseil national et tout, donc c'est bien. Mais la première chose, c'est ce qui était ultra frustrant, c'était tu fais quelque chose pour aider la profession et en fait, c'est ta propre profession qui te met des bâtons dans les roues. Ça, c'était dur. C'était vraiment très, très dur. Après, les autres étapes qui ont été compliquées, ça a été... évidemment de faire croire de donner la foi aux membres du réseau pour qu'ils soient dedans, qu'ils s'investissent et qu'ils fassent des actions ça va. L'étape qui était ensuite la plus compliquée pour moi, qui m'a mis un peu de cheveux blancs, ça a été le lancement international, parce que là tu dois travailler sur des sujets où t'as pas toute la connaissance, donc tu dois te remettre au niveau sur la législation locale, t'habituer aux coutumes, aux habitudes des gens sur le local. Ça a été un peu dur, mais franchement, ça n'a pas été insurmontable. Si tu vois, avec le parcours que j'ai eu sur IAD, c'était dur, mais ça m'a pas traumatisé. Moi, ce qui m'a vraiment fait mal, d'accord, c'était de me prendre des bâtons dans les roues de mes propres confrères et de gens qui avait été élu dans la profession, ça m'avait vraiment fait chier. Maintenant, maintenant c'est évident, c'est plus pareil parce qu'au début c'était des coups comme ça. Maintenant, on a une image qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais tout le monde sait que ce qu'on fait c'est propre, que les gens qui sont chez nous sont contents. Après, soit t'adhères à l'idée de te dire que t'es dans un groupement et tu travailles sous une bannière et une marque, soit t'aimes pas et tu restes avec ton nom et ton cabinet à toi. Mais on n'a plus de problème de haine comme on avait eu avant. Ça, c'était dur, tu vois, c'était dur. Tu sais, quand tu reçois un courrier.
Ouais, et comment du coup vous l'avez vécu? Parce que là tu l'as vécu avec Mylène, qui est ton associée, qui est ta femme aussi. Là je pense que, enfin je sais pas, se faire taper ou, excuse-moi du terme, mais un peu dénigré, je sais pas comment je pourrais le dire, mais c'est pas non plus évident. Moi aussi je l'ai connu aussi avec les guides des chiffres, donc c'est pas toujours facile, tu vois. Mais du coup comment toi t'as fait pour garder la tête froide, la tête haute?
En fait.
Et continuer aussi, parce que ça, en fait, l'objectif, c'est que ça, c'est, peut-être ça peut t'empêcher d'avancer.
Si tu veux, en fait, moi, le problème qu'il y a, c'est que plus tu me fais chier, plus je vais être fort. Donc, en fait, ça sert à rien de faire ça. C'est la plus grosse des erreurs parce que je lâche jamais. Tu sais, moi, les gens, j'ai des potes, ils me disent, toi, t'es Seyard. On peut pas te battre. Seyard des chevaliers zodiaques. De toute façon, tu vas avoir un genou à terre, tu vas te relever, ouais. Tu te relèveras à chaque fois. Moi, c'est ça en fait. Donc, si tu veux, celui qui veut faire un combat avec moi, il faut qu'il ait la foi, vraiment, parce que je lâche jamais, jamais. Si je dois y passer, j'y passerai, mais je lâche jamais. Donc, en fait, comment je l'ai vécu ? Je l'ai vécu plus. Moi, je l'ai vécu assez bien. Mylène, ça l'a saoulé quand même beaucoup plus. Parce qu'elle comprenait pas cet acharnement. Miana aussi, il était quand même ça le saoulait quand même plus que moi. Ça m'énervait, mais ça me démotivait pas. Au contraire, c'est un peu comme la phrase de Ronaldo votre amour me rend fort, votre haine me rend indestructible. Moi, c'est ça en fait. Donc vas-y, amuse-toi, mais de toute façon, tu perdras à la fin. Ça sert à rien. Moi je l'ai pas vécu mal, au contraire je pense que ça a été même quelque chose de fédérateur, parce que tu sais, quand t'as des experts qui avaient rejoint Vision et qui voient qu'en fait on nous dénigre alors que nous on fait rien de mal, on est gentil avec tout le monde, hein, et ben en fait qu'est-ce que tu fais, c'est que tu crées une équipe en fait. Donc moi je leur dis merci, vous avez créé une équipe les mecs, vous avez voulu nous casser, mais tout ce que vous avez fait c'est que vous avez fédéré encore plus Vision. Parce qu'à force de nous casser, vous fédérez.
Ouais, en fait, ça veut dire qu'ils ont, ils ont créé exactement ce qu'ils voulaient pas, quoi. Tu vois, encore plus fort.
Ouais, ils ont créé ce dont on va dire ils avaient peur. Bah, ils l'ont renforcé. Ils ont créé un truc où les gens, bah, ils sont 4000% Vision en fait, parce que c'est humain. Quand t'attaques, tu te défends en fait. Donc moi, c'est pas que ça. En fait. Quand tu prends avec le recul, tu dis oui, ça a été un mal pour un bien. Quand tu es sur le moment, ça te fait chier parce que tu dis putain, j'ai 250 000 trucs à gérer, j'ai pas envie de gérer ça maintenant. Et tu vois, il y a des choses des fois qu'on se rend pas compte, mais moi pour lancer Vision, j'avais déjà lancé mon cabinet en amont. Mon cabinet, il avait cartonné, il avait bien tourné. Et ce que j'avais fait un truc assez couillu, on va dire. Je me suis revendu mon cabinet à moi-même et j'ai injecté 1,2 million dans la boîte. Donc, j'ai mis tout ce que j'avais créé, je l'ai remis dans la boîte pour créer la tech, pour embaucher des gens en com, pour offrir des services aux experts.
T'as mis tapis.
Bah, j'ai fait tapis. Et si tu veux, j'ai la chance d'avoir une femme qui est extraordinaire pour ça, parce que bah, elle est comme moi, elle est courageuse, elle y va et point barre quoi. Et ça c'était assez stressant parce que tu dis oui, j'ai mis tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, t'as pas envie de le perdre en fait. Et quand t'as des gens qui viennent juste casser pour tu sais pas quelle raison, ça ouais c'est énervant. Mais après voilà, moi j'ai la réputation d'être très 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 résilient. Tu peux tu peux me faire chier, de toute façon, je me relèverai à chaque fois, c'est pas grave, amuse-toi, tu t'essouffleras avant, donc c'est pas grave.
Et donc, au début, quand je repars sur l'expérience du départ, comment t'as fait pour convaincre les premiers experts comptables? Parce que là, t'arrives dans un truc où on va se moquer de toi, quoi. On va te combattre, tu vois, c'est vraiment là, le truc classique, ouais. Quoi. Au début, on t'ignore, ah oui. Ensuite, on va te combattre, et puis à la fin, tu vas réussir, tu
oui, vois ce que bah, je veux
dire. Donc, comment t'as fait pour les convaincre, ces premiers
experts
comptables?
Les premiers, c'était... en fait, déjà, pour convaincre le premier, il y avait un point qui était... Il y a 3-4 points. Hein. C'est pareil, c'est une petite recette magique, entre guillemets, en tout cas celle qui a fait la Russie. C'est que déjà, j'avais appris avec les meilleurs d'Europe et peut-être du monde dans marketing de réseau. Donc, IAD, l'équipe d'IAD, j'ai appris avec eux à parrainer des gens. D'accord ? Donc ça, déjà, c'est un enseignement qui est extraordinaire. Souvent, moi, je dis, j'ai un doctorat en compta, mais j'ai un doctorat en marketing de réseau après avoir bossé avec des mecs comme ça, tu vois. Et tous les lundis, j'étais avec Malik au siège d'IAD qui m'apprenait tout ce qu'il connaissait sur le marketing de réseau et comment le mec a créé une licorne. Qui a eu la chance d'avoir cet enseignement pendant un an? Personne, tu vois. Donc, j'ai appris ouais, avec vraiment des gens extraordinaires. Malik, Vincent Morin, Brian Manger, des gars extraordinaires. Et donc, ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il y avait quand même une exemplarité qui avait été faite parce que quand j'ai commencé à lancer Vision, j'avais quand même créé en moins de 3 ans un cabinet qui faisait 1 million de chiffre d'affaires et t'en as pas beaucoup qui arrivent à faire ça. Je sais même pas si ça existe en fait en partant de zéro. Donc je sais même pas si c'est un précédent. Parce que le cabinet moyen en France, il fait 400 000 et il attend au bout de 10 ans. Donc la trajectoire, elle était relativement rapide même pour un cabinet traditionnel. Donc
ouais, tu m'étonnes.
Donc, il y avait déjà ça, il y avait ces deux points-là. Et le troisième point, c'est qu'en fait, les premiers experts à être rentrés, et la toute première à être rentrée, que tu connais d'ailleurs, ce qui a été passé en interview chez toi, c'est Caroline Hélin. Et Caroline, en fait, c'est...
Ah, on lui fait une grosse bise bah oui, à Caroline, c'est, évidemment.
C'est notre tueuse de chez Vision. C'est... Et puis, avant d'être une professionnelle extraordinaire, Caroline, c'était ma pote en fait. On se connaît depuis qu'on a 20 ans en fait. On a bossé ensemble en job étudiant et du coup on est resté toujours pote. Elle était à mon mariage, elle était à son mariage. Voilà, c'est souvent on se dit elle c'est ma meilleure pote féminine et moi je suis son meilleur pote masculin, tu vois. donc on est vraiment très très bons potes et on mange ensemble tous les 2 mois. Elle mange chez moi ou je mange chez elle et tout. Donc voilà. Mais en fait, du coup Caroline, elle est rentrée parce qu'elle connaissait ma trajectoire et elle savait qu'en fait je lui ferais jamais un truc tordu. En fait, si elle rentre, je ferais tout pour qu'elle réussisse. Donc Caroline est rentrée, utilisé les elle a eu l'intelligence. Ça, c'est une des forces qu'elle a, c'est incroyable, c'est d'apprendre tout le temps. Elle apprend, elle enregistre, elle applique, elle améliore. C'est une machine, hein. De toute façon, t'as vu hein, Caroline comment elle est. Du coup, elle a eu confiance dans le projet. Elle est rentrée. Elle a apporté plein de choses à Vision. Vision lui a apporté plein de choses. C'est cette synergie qui a rendu le truc aussi fort. Donc Caroline, elle est rentrée parce que je la connaissais et qu'elle avait déjà ce capital confiance. Ensuite, il y a eu très rapidement aussi dans le mois, il y a eu Aïcha Amijoud qui est rentrée. Aïcha, pareil, on s'est rencontrés parce qu'on avait une connaissance en commun qui était un notaire. Et le notaire avait dit à Aïcha, il faut que tu rencontres un expert comptable que je connais, il a créé un truc qui est génial et tout. Et Aïcha, elle était en train de se lancer et elle hésitait à rentrer. Je lui dis, écoute, de toute façon, c'est simple, tu te lances. Qu'est-ce que tu as à perdre? Ça marche, tant mieux, tu auras fait le bon choix. Ça marche pas, de toute façon, tu n'auras rien perdu. Et Aïcha, elle s'est lancée, pareil, elle y a cru, elle a fait des actions et tout pour développer le réseau. C'est une personne qui est aussi top humainement et professionnellement. Donc, elle a fait énormément de bien. Elle a fait beaucoup de belles, de très bonnes images. Et en fait, quand on a eu Caroline, Aïcha, les deux premières, on va dire, qui étaient vraiment dedans, les deux premières tout court d'ailleurs, et ben on a eu des exemples de réussite et ça a donné envie à d'autres de suivre. Parce que t'as vu comment... parle de Caroline, mais tu vois comment Caroline est, elle a tellement d'énergie que tu as envie de la suivre et tu dis ouais, c'est une personne qui va faire ce qu'il faut pour t'amener. Si elle t'accompagne, tu vas cartonner. Donc, on est parti comme ça. Donc, au début, j'étais avec mon bâton de pèlerin tout seul à dire à des experts, venez chez Vision, c'est génial. Maintenant, il y a plus de 50 cabinets où tu as des experts qui sont dedans, qui disent, bah, venez chez Vision, c'est génial. L'année prochaine, tu en auras peut-être 150. L'année d'après, 300. Et voilà, parce qu'à chaque fois, en fait, on va de plus en plus vite. C'est la particularité.
Donc, c'est vraiment un par un avec les gens qui étaient autour de ton réseau proche. Et puis après, ça s'est tissé au fur et à mesure.
C'est le charbon. C'est
beau, top, super. Est-ce que, bah, c'est clair, hein, de toute manière. Et est-ce que vous, est-ce que y a un critère de sélection pour que les gens puissent venir comment vous les choisissez? Est-ce que vous choisissez mutuellement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une culture aussi
ah
chez
oui,
vous.
Oui, en fait, c'est...
qui est particulière. Et j'imagine pas un mec ou une fille chiante rentrer dans le cabinet, quoi. Enfin, dans le réseau.
Oui, il y a une culture. Il y a pas de règles d'âge, de sexe, de couleur, de quoi. Il y a rien de ça. Le seul truc, c'est est-ce que t'es ok pour venir à la conquête du monde avec nous. En fait, c'est ça le sujet. C'est la volonté de conquête. Okay. C'est la volonté de s'éclater, de transformer la profession, de partir au ski en mars. Ces trucs comme ça. Tu vois, c'est on veut pas. On va être le réseau où tu t'épanouis aussi bien professionnellement que personnellement. Et en fait, comme ça marche en parrainage, c'est très simple, c'est que nous, la règle, c'est que tu parraines uniquement quelqu'un que tu as envie d'aider. Tu ne vas pas parrainer quelqu'un pour le parrainer. Si tu as quelqu'un... Moi, on a des gens qu'on a refusés dans le réseau. On pourrait être plus nombreux. Hein. On a refusé parce que moi, si tu veux, tu viens me voir pour me dire « Ouais, moi, je veux venir chez Vision et je veux gratter tous les avantages. Mais en fait, je ne vais pas venir... aux events, je compte pas m'impliquer dans le réseau, etc. Et bon, en fait, non, tu rentres pas chez nous, en fait. Je vais pas te donner les clés de la Ferrari comme ça, en fait, c'est pas la fête. Et mais c'était vraiment ça, tu vois. Et du coup, on a des gens, oui, qu'on a refusé. Et en gros, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec l'expérience, eh ben en fait, on sait qui on veut ou qui on veut pas. Et ça, c'est vraiment quand t'as la chance, on va dire, de rentrer chez Vision. T'as un pouvoir, c'est que c'est toi qui choisis avec qui tu bosses. Tu vois, c'est toi qui choisis quel filleul tu vas accompagner, etc. Donc ça, c'est notre particularité. Mais il n'y a pas de règle d'âge, pas d'âge. On a des gens, on a des doyens dans le réseau. On a Philippe ou Dior. C'est des gens, tu les vois, t'es trop content de les voir. Ils ont cette sagesse qui fait du bien. Ils ont cette bienveillance parce qu'en fait, ils sont pas du tout dans la compète, ils sont là pour partager leur expérience et c'est génial. C'est le mix de tout ça qui rend le truc fort. C'est justement qu'il y ait plein de diversité. Et nous, c'est notre modèle. Donc, voilà.
Alors, toi, en tant que chef d'entreprise, comment tu fais progresser ta boîte? Quels sont les indicateurs financiers que tu regardes pour ton propre projet? Tu vois, parce que forcément, ceux qui vont regarder aussi cette vidéo, ce sont des aspirants à l'expertise comptable ou des futurs... DAF dans les boîtes. C'est quoi les tips que tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent, grâce à la lecture financière, faire progresser leur boîte?
En fait, ça dépend de comment je me positionne. Si je me positionne en tant qu'expert comptable, les choses que je vais regarder, ça va être évidemment le nombre de contacts qu'on a reçus, le taux de conversion des prospects, le budget moyen, le panier moyen, le chiffre d'affaires généré en exceptionnel et en récurrent. Tu vois, ça va être des choses comme ça. Maintenant, quand je me positionne en tant que patron de Vision, c'est encore différent. Il y a évidemment toutes ces données-là que je vais regarder pour l'ensemble du réseau, mais il y a aussi tout un tas d'autres données. C'est quelle est la visibilité du réseau, quelles sont nos performances sur les réseaux sociaux, sur toutes ces choses-là. Mais c'est pas des choses qu'un expert comptable ou un DAF va faire, en fait. Moi, je suis sur Vision, je suis pas expert comptable, je suis CEO. Je dois mesurer tout un tas de trucs en même temps et j'ai la chance d'avoir heureusement des chiefs qui sont extraordinaires parce que, bah, par exemple, j'ai le CNO qui est le Chief Network Officer. Lui, il va me faire des retours sur le nombre de présentations qu'il y a eu du réseau ce mois-ci, le taux de conversion en présentation, le taux de présence aux événements du réseau, le taux d'assiduité, les résultats sur les challenges que l'on met en place. Et en fait, tous ces indicateurs-là permettent de régler certains rouages, tu vois. Mais après, évidemment, tu as tous les trucs qui vont être plus classiques, le chiffre d'affaires, la trésorerie qui reste, le résultat flash, ces choses-là. Mais c'est pas ça qui va faire augmenter la performance de la boîte. D'ailleurs, tu vois, c'est un truc qui est marrant. C'est, par exemple, moi, j'ai intégré dans Vision une culture de l'action et pas forcément une culture du résultat. Parce qu'en fait, quand tu mets une culture du résultat, tu as des trucs tout cons qui peuvent arriver. Tu vois, je te donne un truc, on a des challenges qui tournent toute l'année. Avec, là, on en a lancé un cette année qui est assez marrant, c'est le ballon d'or. C'est le visionnaire de l'année, tu vois. En fait, c'est celui qui a fait le maximum de belles actions et il gagne des trucs et tout. Donc, si tu fais un challenge sur les actions, tu dis, bah voilà, je vais mettre un trophée ou un cadeau à l'expert comptable qui a rentré le plus de clients. Et bien, ce qui se passe, c'est que celui qui va faire des actions pour rentrer des clients et qui ne transforme pas, ça va le décourager très vite. Tu vois. Et il suffit que tu sois dans un moment où tu es dans ton momentum, tu n'arrêtes pas d'enchaîner des rentrées clients avec où tu fais un 100% de taux de transfo, et ben tu vas flinguer tout le résultat parce que tous les autres vont pas réussir à faire aussi bien. Donc nous, on a mis par exemple des challenges, et moi, c'est des indicateurs que je regarde encore plus que les résultats, sur les actions. Donc typiquement, tu vas gagner, tu vas être le visionnaire de l'année si tu as fait beaucoup de présentations de vision, pas si tu as parrainé beaucoup de monde, c'est si tu as fait beaucoup de présentations. Parce que l'expert comptable, comme l'humain tout court, il aime pas faire les actions. Il faut que tu le bouges sur les actions, parce que l'action donne le résultat. Donc moi, tu vois, je mesure beaucoup les actions avant de mesurer les résultats. Après, de toute façon, on fait forcément une corrélation entre l'action et le résultat. C'est logique. C'est aussi le boulot du CEO et du CFO ou n'importe qui sur son domaine spécifique. Mais en tout cas, nous, on fait ça, on travaille beaucoup, c'est les actions. Le nombre de présentations que tu as faites, le nombre de parrainages que tu as fait de prescripteurs d'affaires, tu as toutes ces choses-là, en fait, que nous, on mesure. Et c'est, en gros, t'as pas un résultat tout de suite, mais par contre, on sait que ça va générer du résultat demain. C'est notre façon de faire.
Aujourd'hui, vous êtes combien?
Alors,
yes, voilà. Parce qu'il y a le soleil qui s'invite au rendez-vous. Bon, on va pas se plaindre, mais.
Pourtant, je suis pas calme. J'ai pas le même temps. Mais bon. aujourd'hui, on est.
Ouais, donc vous êtes combien là maintenant?
On est combien?
Salariés collab chez.
Alors,
chez
vous. En fait, si tu dis, il y a combien de personnes qui travaillent sous la bannière Vision aujourd'hui? Il y a à peu près 400 personnes. Donc, ça. Okay. C'est sur l'ensemble des cabinets que l'on a sur la France et sur le Portugal. Et la particularité que l'on a, qui est assez géniale, c'est que nous, au niveau du siège Vision, on a une équipe de 10 personnes. C'est ultra scalable. En fait, on a un modèle qui est, évidemment, et on pourrait monter à 3000 personnes sans avoir forcément besoin d'augmenter le staff, en fait. C'est ça qui rend le modèle fou. Tu vois.
Donc toi,
tu
avais un cabinet avec 10 personnes à 1 million de CA, ouais. Et là aujourd'hui, tu as un Vision avec 10 personnes et 10 millions de CA, quoi. C'est un peu ça, un peu ça l'échelle.
C'est ça en chiffre, mais... en fait, si tu veux, j'ai 10 personnes qui travaillent sur le réseau Vision, donc sur la com, sur la tech, les choses comme ça. Mais bon, ça va augmenter fortement prochainement. J'ai aussi mon cabinet où j'ai une quinzaine de collabs. Donc,
d'accord. Oui, celui que tu avais monté
toujours,
en 2013,
qui cartonne
là.
Très très bien et qui a comme particularité ce cabinet, c'est d'être le cabinet test pour Vision. En fait, quand on veut déployer un outil, en fait, on le fait déjà en interne avec des clients souvent amicaux et tout pour nous fasse des feedbacks, ouais, votre app elle est bien, elle est pas bien, la data vie, je voudrais ça comme ça, comme ça, comme ça. Et derrière, une fois que nous on a pu faire notre POC en interne, on le déploie sur l'ensemble du réseau et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet d'aller très vite sur les innovations, parce qu'en fait, on fait des tests perpétuels avec beaucoup de clients amis, quoi.
Bien sûr.
Donc voilà, en gros sur le réseau c'est 10 personnes aujourd'hui qui bossent et qui font tout un tas d'actions. Après, si tu veux, Vision ça a été créé avec l'obsession de l'optimisation. Hein. C'est pas, il y a pas de une boîte comme nous si elle avait pas été. Je suis fier de dire ce qu'on a fait parce que des fois les gens ne savent pas dire. Mais moi c'est vrai que je suis fier de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait avec Mylène, avec Niana, avec toute l'équipe ici, parce qu'on sont des personnes comme Vianney, comme Georges. On n'aurait jamais réussi à faire d'aussi belles choses. Mais tout a été créé tout le temps avec l'obsession de la scalabilité, tout le temps. Il n'y a jamais rien qui a été créé avec on va avoir du mal à maintenir un dev informatique, on va avoir du mal à faire un support sur la transmission de la connaissance, etc. Tout a été fait dès l'origine avec une obsession permanente de la scalabilité, tu vois.
Et d'où vient cette culture, en fait? Parce que c'est pas si commun que ça. Je pense que dans le monde des startups, c'est un truc qui est...
C'est logique.
C'est normal. Mais d'où te vient cette culture pour toi, de toi, surtout dans le milieu de la profession compta, normalement on n'est pas sensibilisé à ça à l'origine.
Bah, en fait, ça vient d'un truc, tu sais, tout con, mais j'ai deux oreilles, deux yeux et une bouche. J'écoute, je regarde deux fois plus que je parle. Donc, je regarde beaucoup ce qui se passe dans d'autres métiers. Je me dis comment, en fait, j'ai un côté où quelqu'un qui a réussi, je l'admire et je le jalouse jamais. Parce que je me dis, s'il a réussi, c'est qu'il a dû trouver un truc magique pour cartonner comme ça. Et j'ai juste envie de savoir, c'est comment tu as fait pour que je puisse faire un jour peut-être la même chose ou le transposer dans mon modèle, tu vois. Donc, quand tu as des gens qui sont fans, j'en sais rien, de chanteurs ou je sais pas quoi, moi, mes idoles, c'est Jobs, c'est Musk, c'est des mecs comme ça, en fait. Donc, je regarde complètement tout ce qu'ils ont.
Cristiano Ronaldo aussi, j'avais déjà
Ronaldo.
Entendu
moi,
ça
j'en
quelque
deux.
Part.
J'ai les deux grandes, deux grandes idoles que j'ai, c'est Jobs et Ronaldo. Pour différentes raisons. Jobs, c'est
d'où le ballon
ouais,
d'or.
C'est ça. Jobs, c'est le côté, c'est le génie incroyable qu'il a eu, tout ce qu'il a imaginé, développé, le sens de la perfection qu'il avait, qui était dingue. Et puis le fait que je sois né le même jour que lui, un 24 février, je suis trop fier, tu vois. C'est génial, tu vois, c'est marrant. Et l'autre, c'est Ronaldo. Ça aussi, il me dit peut-être que je serais le job de la compta. J'aimerais bien, ça serait cool. Et l'autre, bah, Ronaldo, forcément, déjà, je suis portugais, donc forcément, je suis peut-être moins, je suis peut-être un peu partial sur mon jugement, mais j'aime beaucoup la résilience du mec, il est incroyable. Tu vois, il part n'importe où, il cartonne, point barre. Et tu le casses, de toute façon, il se fait casser, le lendemain, il m'a triplé. Tu peux le casser, de toute façon, ça lui passera au-dessus parce que, bah, tu l'aimes ou tu le détestes, en fait, il fait ce qu'il a à faire. Et moi, ça, c'est quelque chose, le mental qu'il a, je le trouve dingue. Donc voilà, mais en gros, moi, j'aime bien, tu vois, c'est ça, c'est cette culture de l'innovation, c'est d'apprendre tout le temps, de me dire voilà comment d'autres ont pu réussir à faire des choses sympas. Moi, je suis admiratif de l'innovation technologique et de ces choses-là, tu vois. Après, évidemment, j'ai ce côté aussi très protection de l'environnement, donc l'innovation pour l'innovation, je casse face aussi dans le respect de la planète, de la durabilité, etc. Mais c'est ça qui a fait que je suis très calé, on va dire, sur ce qui est voilà, la scalabilité, la tech, tous ces machins-là, parce que c'est des choses qui me passionnent, en fait. Et dès lors que tu fais quelque chose qui te passionne, c'est facile. C'est dur, c'est quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Moi, ça me passionne, donc je regarde tout le temps. Là, je passe mon temps en ce moment à regarder, à écouter un podcast. Là, je me suis quasiment toute la série, un podcast qui s'appelle FinScale. Il y a une centaine d'épisodes sur toutes les belles startups de la fintech française, c'est quasiment tout. T'as Conto qui est passé, Mooncard, tout un tas de belles boîtes, Memo Bank, tout ça, machin. Et en fait, c'est ultra intéressant d'écouter, de voir comment des personnes ont réussi à ouvrir un chemin. Et quand t'as l'humilité de te dire, y en a qui sont plus forts que moi sur un domaine parce qu'ils ont travaillé dessus, parce qu'ils ont passé du temps. Et quand t'as l'humilité de te dire ça, bah en fait, ce qui est assez fou, c'est que rapidement, t'arrives à avoir des fois le même niveau que ces gens-là parce que t'apprends sans jalousie, tu vois. C'est assez marrant. Et du coup, tu montes vite en compétences et tu te passionnes et tout ça. Donc voilà, moi, c'est vrai, c'est obsession de la scalabilité, obsession de la croissance parce que je veux, tu sais, c'est con, mais quand je jouais à Age of Empires, c'est le jeu que j'adorais quand j'étais plus jeune. Je voulais créer un empire, mais de dingue, et que, en fait, en gros, je créais une armée tellement énorme que c'était impossible, limite, que je perde un soldat. Je voulais pas perdre un soldat, tu vois. C'était un truc fou, mais je veux faire des stats qui sont incroyables. Tu vois, je jouais à Call of Duty, t'avais un truc, ou Medal of Honor. Et t'avais un ranking. Si t'étais super bon à Medal of Honor, t'avais le titre de Guillaume Tell. En gros, c'était Guillaume Tell, c'est quand. T'avais la stat, c'était tu tirais. T'avais le titre de Guillaume Tell, c'est si t'avais une stat de une balle, un abattu, mais en me disant que la tête, tu vois. Et moi, je voulais toujours avoir le petit Guillaume Tell, tu vois. Ah ouais. C'est trop... Donc, l'obsession de la perfection, tu vois. C'est un peu comme Jobs, ça, d'ailleurs, c'est marrant.
Mais voilà. Et donc, toi, t'as toujours voulu devenir entrepreneur ou c'est venu au fil du temps quand tu t'es lancé dans l'expertise ou avant, quand t'étais plus jeune, t'avais envie
non,
de le faire?
Non, pas du tout. Je te dis franchement, je viens d'un milieu où... tu sais, moi, je viens d'un milieu de quartier vraiment défavorisé, hein, pour pas faire mon violon, pour dire que c'était dur ma vie et tout, non. J'ai des parents qui étaient top et tout, mais qui ont fait tout pour qu'on puisse réussir. Mais je viens pas d'un milieu qui était fait pour l'entrepreneuriat, en fait. Il y avait pas du tout de notion d'entrepreneuriat où j'étais. C'était tu rentres dans une boîte, tu restes jusqu'à ta retraite, tu vois. C'était ça le truc, et tu trouves une boîte, t'es content. Voilà. Du coup, j'avais pas du tout cette culture-là. Le truc, c'est qu'après, tu fais des rencontres, tu t'ouvres aux gens. Moi, ce qui a tout changé, c'est ma femme, c'est Mylène. C'est abusé. Mylène, en fait, elle venait d'une famille de commerçants. Et moi, si tu veux, quand j'étais dans la compta, même quand j'étais en cabinet, où j'étais associé avec les deux anciens associés de l'époque, je serais resté là-dedans longtemps, en fait, parce que je gagnais bien, et je me dis, bon, allez, je gagne bien, je fais avec, en fait. Et c'est Mylène qui m'a dit, écoute, on se lance, tant pis, elle m'en parlera toujours, elle me dit, tant pis si on doit manger des pâtes pendant 6 mois, si je dois partir bosser ailleurs pour remplir le frigo et tout, bah, on le fait, on se lance. Donc, parce que Mylène, elle avait cette culture de, il faut y aller. Et moi, j'avais pas tout ça. Et franchement, heureusement qu'elle était là pour faire ça. La chance que j'ai eue là-dedans, c'est que, et maintenant c'est elle qui me le dit, mais ce qui est dingue, c'est que tu as trouvé ta vocation, parce que j'adore ce que je fais et je pense que je suis bon dans ce que je fais, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir eu ça et je le souhaite à tout le monde de trouver le truc où il s'éclate et où il cartonne, et voilà. Mais j'étais pas fait pour être entrepreneur. C'était même pas dans mon modèle, c'est quelque chose qui me faisait peur de devoir aller chasser, trouver un client. J'avais peur, en fait. Moi, je voulais avoir un salaire fixe, tranquille. Je voulais un poste en employé de banque ou à l'URSSAF. Je cherchais un truc comme ça, tu vois. Je pensais pas du tout être entrepreneur. Ouais, c'est vrai, hein, c'est fou. Et puis, au final, non, c'était comme souvent, les femmes ont plus de courage que les hommes. C'est Mylène qui a mis l'impulsion pour se lancer. Et voilà, quoi.
Du coup, on va arriver bientôt à la fin de cet échange. Bon, j'aurais tellement mille choses à te poser comme question, mais on verra pour une V2, hein, mon cher Joël. Du coup, je vais parler un peu de deux questions qui sont importantes pour moi. C'est quoi un peu ta vision sur les 5 à 10 prochaines années sur l'évolution de la comptabilité, gestion dans le tissu économique français? À ton avis, comment ça va évoluer et qu'est-ce que toi, tu flaires de ton côté?
Ah, ok. Bon, en fait, ce que j'imagine aujourd'hui, c'est que c'est un métier, bon, on le sait tous, qui est en très très grande évolution, que en fait il va falloir plus que jamais intégrer dans le cursus et dans les compétences des gens des soft skills, être capable d'avoir de l'empathie envers les gens, être capable d'avoir de la bienveillance, ces choses-là pour expliquer la compta. Et évidemment intégrer à ça toute une dimension technologique. Et en fait, Je pars vraiment d'un principe simple, c'est que on va avoir, à mon avis, de grands changements dans la profession, parce que jusqu'à présent, il y a eu personne qui s'était vraiment intéressé à notre domaine. Maintenant, ça change. Il y a des acteurs externes qui s'intéressent, il y a des acteurs internes qui s'y intéressent. Bon, il y a Vision, il y a d'autres cabinets qui sont aussi innovants. Et oui, je pense que soit tu vas faire partie d'un modèle ou d'un écosystème qui te permet d'offrir à ton client un bon service, soit tu te mettras en un moment en danger parce que, à moins d'être sur une niche, parce que, je veux dire, nous on voit ce qu'on est en capacité aujourd'hui d'offrir à nos clients, un cabinet seul peut pas offrir les mêmes services. L'expert comptable peut être extraordinaire, hein, je mets pas du tout en cause la capacité de l'expert, du confrère et tout. Mais aujourd'hui, tu vois, je dis un truc tout con, mais nous, aujourd'hui, on est en capacité d'offrir à l'ensemble des clients de Vision, aux plusieurs milliers de clients que l'on a, un CE. Un cabinet seul ne peut pas faire ça parce que nous, on paye un montant énorme tous les mois pour avoir l'accès à un espèce de CE pour tous nos clients et leurs propres salariés, tu vois. Donc, en fait, à un moment, les services vont faire quand même une différence. Et voilà, moi, je pense qu'il y a, quand même des cabinets qui… Il y a des évolutions qui vont arriver. Après, par rapport au métier… dans les cabinets et dans la compta, j'espère qu'on va rendre ça plus sympa, plus sexy. Et pour le coup, les geeks du chiffre, vous faites des trucs sympas, c'est bien. J'aime bien, moi, le nom, les geeks, là, j'aime bien ça. c'est vrai, en plus, tu as dit que j'ai une. On a une collab qui vient de chez vous, hein. Elle est top en plus, hein. elle est motivée, hein. Franchement, super.
On lui fait une spéciale voilà. Dédicace, c'est Maëva.
C'est ça, c'est Maëva.
On lui fait une belle dédicace.
Une dédicace en plus. Elle est avec le Covid aujourd'hui, elle est au bureau. Donc,
aïe, bon. La
voix. Ouais, elle va bien. Donc, du coup, enfin, ce que j'ai entendu, elle va bien. Donc, bref, du coup, je me dis oui, notre métier, il a des perspectives qui sont extraordinaires. Il faut juste surfer sur la vague et pas se la prendre en pleine poire. Et ne pas faire l'erreur que les taxis ont pu faire en disant Uber, ça va rien faire. Non. Il faut avoir l'humilité de se dire, il y a de nouveaux modèles qui arrivent, qui répondent à des besoins clients et que, en fait, il faut se remettre au diapason pour répondre de la meilleure manière à ce que nos clients attendent si on veut avoir un bel avenir. Voilà, faut pas qu'on ait le fameux syndrome du Titanic. On sait qu'il y a des icebergs, mais on regarde pas ce qui se passe. Non, faut pas faire ça.
Du coup, plus pour la partie personnelle, comment toi tu progresses? Comment toi t'apprends? Comment t'évolues? Comment tu t'organises aussi, parce que tu dois avoir une… Je ne sais pas si tu as des enfants, mais en tout cas, tu es marié, tu as une entreprise. Bon, bref, tu as du taf, quoi. Comment tu fais pour gérer ton planning et avoir une vie épanouie à côté aussi, parce que j'ai regardé un peu ton Insta. Ça transpire des choses qui sont sympas, tu vois.
Oui, oui. Bah, en fait, si tu veux, moi déjà, je ne sais pas comment dire ça, mais j'arrive pas à croire à la vie que j'ai, en fait. Elle est dingue, tu vois, d'être à la tête d'une si belle boîte avec que des gens géniaux où en fait on bosse mais on s'amuse, c'est quand même pas donné à tout le monde, tu vois. Je veux dire, moi, mes parents, ils ont fait les parcours traditionnels des Portugais immigrés, tu sais, femme de ménage, maçon. J'ai une chance énorme de bosser dans un cadre qui est idéal, avec une belle REM. Donc ça, pour le boulot, c'est top. Mais encore plus que ça, j'ai une femme qui est extraordinaire. J'ai deux enfants qui te donnent une énergie énorme. Parce que les enfants ont ce pouvoir-là. Tu peux rentrer fatigué du boulot. Il suffit juste que tu entends de « Ah, papa, t'es rentré. » Ça y est, t'es de nouveau boosté, tu vois. Comment je fais? J'essaye aujourd'hui au maximum de profiter de ma vie tout court. J'ai beaucoup, je vais être clair, hein, franchement, sur les dernières années, tu crées pas un Vision sans te sacrifier énormément à titre perso. T'es obligé de mettre énormément de temps sur la boîte et de l'énergie. Comment j'ai géré cette charge de travail énorme, c'est qu'en fait, je pense percuter très vite, prendre des décisions très vite, je prends les décisions vite. Je me plante, comme tout le monde. Je me plante assez rarement parce que j'essaie d'écouter aussi les avis de tous les gens qui sont bienveillants et tout, donc ça limite les risques. Par rapport à ça, là le truc, c'est oui, j'essaye de profiter au maximum de chaque moment. Tu vois, le truc, c'est si tu te dis, quand t'es dans un modèle comme le mien, où je veux pas vivre à moitié les choses, je veux tout vivre à 200%. Je veux que ma vie pro elle soit folle, je veux que ma vie perso elle soit dingue. Et je veux que chaque moment, en fait, c'est un moment, tu sais, comme il dit dans Hitch, chaque moment, c'est un moment qui doit te couper le souffle, en fait. Je me dis, bah voilà, je vais pas, si tu veux, si c'est passer du temps pour passer du temps à rien faire, tu me verras jamais faire ça. Il faut que je fasse quelque chose dans le moment parce que pour moi, la denrée la plus importante, c'est le temps. Le chronomètre, il passe et chaque seconde, elle doit être, on doit en profiter à fond, en fait. Donc, quand je fais des trucs avec mes enfants, je veux que ça soit génial. Je suis à 100% avec eux. Je suis pas en train de penser au boulot. Quand je suis avec les enfants, je suis avec les enfants. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis avec un expert du réseau ou avec quelqu'un, je suis avec cette personne. Je coupe mon téléphone, point barre. Et en fait, c'est ça qui me permet d'être assez, on va dire, efficace parce que j'ai pas la tête partout. Je profite du moment présent, en fait.
Et est-ce que tu aurais des ressources, des bouquins, des podcasts, des choses qui t'ont particulièrement aidé dans ce processus, qui t'ont amené à être aujourd'hui ce que t'es aujourd'hui, est vraiment quelque chose de transformateur.
Moi, il y a plein de livres qui m'ont marqué. Tu vois, par exemple, tu parlais de la scalabilité. La scalabilité, c'est des notions que t'as. C'est pas exactement expliqué comme ça, mais tu l'as par exemple dans la semaine de 4 heures où la personne t'explique comment rendre l'entreprise la plus rentable possible pour profiter en fait de la vie. Tu vois, par exemple, tu as la semaine de 4 heures. Il y a deux livres cette année qui m'ont particulièrement marqué et j'ai trouvé top. C'est La règle, pas de règle, qui est le je sais pas si tu l'as lu celui-là.
Il est incroyable. Ce livre est incroyable. Bordel. Là, fondateur de Netflix. C'est ça. On est dans le turfu d'un truc qui a été imaginé hier, quoi. C'est tu ça. Vois, donc vraiment, franchement, ce bouquin est incroyable.
On est complètement d'accord. C'est pour les auditeurs, c'est comment Netflix gère sa stratégie avec ses collaborateurs. En fait, comment ils font pour avoir la meilleure équipe du monde sur leur domaine. Et comment ils font pour que ces gens-là soient à fond chez Netflix, quoi. C'est quand tu entends le truc, c'est un ovni, ce livre, il est génial. Un autre que j'ai trouvé génial cette année, qui est un vieux livre, qu'on m'avait recommandé de lire à plusieurs reprises, que j'avais jamais lu, que j'ai lu là. D'ailleurs, tout le monde se fout de ma gueule quand je donne le titre, parce que le titre, il fait vraiment pitié.
Je crois savoir lequel tu vas dire, mais vas-y, je te laisse.
Comment se faire des amis, tu vois.
C'est une dinguerie, ce bouquin. Non, ne vous méprenez pas, faut pas se fier au titre. Hein. On n'est pas des sans-amis. Hein. Non, franchement, il est trop.
Ce livre-là, il est génial parce qu'il te rappelle en fait comment fonctionnent les gens, que le conflit, ça rapporte jamais rien et tout. Et franchement, il est vraiment top. Après, tu as tout un tas d'autres livres. Hein. Tu vois, il y a la biographie Steve Jobs, celui qui l'a pas lu, il faut la lire. Celle de Walter Isaacson, elle est extraordinaire. T'as l'effet cumulé, t'as plein de choses comme ça qui sont sympas à lire, mais voilà, là sur cette année, il y avait ces deux-là qui m'ont vraiment marqué, j'ai trouvé assez dingue. Après, les podcasts,
je vois qu'on a la même bibliothèque.
De toute façon, je pense que quand
tu m'as cité les quatre bouquins, ils sont dans ma bibliothèque et j'ai lu.
C'est des trucs qui sont indispensables à lire, en vrai. Aujourd'hui, t'es obligé de lire ça pour t'ouvrir un peu l'esprit. Après voilà, quand tu commences à regarder là-dedans, tu vois aussi qu'il y a des podcasts qui sont sympas à écouter. Tu vois, là j'en ai terminé une série qui est Guerre de Business. Je sais pas si tu l'as écouté, ce truc. Il est génial.
Pareil.
Les guerres entre différentes grandes enseignes. C'est marrant de voir comment ils ont fait leur stratégie. Là, je te dis, en ce moment, je suis en train d'écouter FinScale. Là, j'en suis à 80 épisodes, un truc comme ça. Je passe mon temps à faire ça en fait et j'aime bien, j'apprends et tout ça, quoi. Après, voilà, je te donnais les gros trucs. Après, il y a des trucs pour rien avoir, mais moi, j'aime beaucoup c'est tous les trucs fantastiques, les Marvel, les machins comme ça, parce que ça te permet de t'évader aussi, en fait. Tu vois, moi, je l'ai aussi. Tu peux trouver sur mon livre de chevet un comics Iron Man comme un livre de développement personnel, en fait. Ça dépend des phases où je suis, où j'ai envie de me libérer l'esprit ou pas. Mais voilà.
Est-ce que tu aurais un message de fin à donner aux auditeurs qui écoutent, je sais pas, une sagesse, un truc, un truc que tu partais, j'en sais rien, mais un truc voilà pour clôturer un peu cet échange avant que tu me dises où est-ce qu'on peut te trouver.
D'accord. Bah en fait, moi si je devais donner un message, c'est trouver le truc sur lequel vous excellez et vous éclatez, surtout prenez plaisir, quel que soit le domaine, parce que en fait, si on je trouve que si on ne prend pas de plaisir à ce qu'on fait, on ne peut jamais être bon. Et là, pour le coup, on parle beaucoup de tout ce qui est évidemment sur du chiffre, tout ce qui est le métier de la finance. Il y a dans cette branche-là une multitude de métiers, de possibilités, etc. Faut pas du tout croire que c'est un métier qui est chiant, parce que c'est un métier qui est génial. Et vraiment, je pense, moi, chaque fois, quand on me dit qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants fassent, etc., je dis moi, je voudrais qu'ils fassent soit il fait astronaute, soit il fait pour mon fils, par exemple, soit il fait avant-centre du Real Madrid, soit il fait expert comptable. Il n'y a pas mieux que ça. Au-dessus, il n'y a que ces deux trucs-là. C'est tout. Donc, autant dire qu'il y a plus de chances d'être expert comptable quand même. Donc, c'est un super métier. C'est la seule chose que je peux dire. Moi, c'est un métier qui m'a tout donné, qui m'a appris trop de choses, où il n'y a pas de numerus clausus. En fait, la seule chose qui fait que tu peux y arriver ou pas, et c'est ça que je trouve génial dans ce métier, c'est ton focus, ta capacité à travailler et à être dedans. Tu vois, ça me fait penser à une interview que tu avais fait de Gilles Bossigère, que je salue au passage, mon ami Gilles, qui justement aussi mettait un petit peu en avant ce côté-là, que c'est un métier qui est ouvert à tous, et c'est ça qui est assez magique. Il faut pas croire que quand tu fais de la compta, en fait, tu fais juste des TVA. Non, c'est plus que ça, c'est beaucoup plus. Tu aides des boîtes à grandir, tu aides des entrepreneurs à grandir. Et ça, c'est génial, quoi.
Ok, top, mon cher Joël. Donc, toi, je sais que tu es actif sur LinkedIn. Si les gens ils veulent te voir ton travail, je pense qu'ils peuvent aller directement là-bas. Tu as d'autres endroits sur lesquels ils peuvent.
Moi, je suis beaucoup moins actif qu'avant, parce que j'avoue que le temps me manque un peu pour communiquer autant qu'avant. Mais je suis très actif sur LinkedIn. Avant, encore plus, c'était sur Facebook où je développais pas mal d'activité via Facebook. Mais LinkedIn, c'est le top. Pour me contacter via LinkedIn, c'est parfait. Moi, j'y vais régulièrement. De toute façon, je regarde ce qui se passe tous les jours. Donc, me contacter via LinkedIn. Exactement.
Ok, super. Bah, écoute, un immense merci, Joël, pour cet échange et ta transparence.
Bah, merci à toi, en tout cas, pour l'invitation.
Du coup, on se dit à sympa. Bah, on se dit à bientôt pour une V2,
avec plaisir. Hein,
pour l'évolution de Viséon, parce que à ce qui paraît, il y a des choses dans les tiroirs qu'on dévoilera pas maintenant, évidemment, sachant que moi je les connais pas, mais que bon, il peut se passer des choses.
Il y a de grosses choses. Hein,
on se laisse la surprise pour
c'est
ça.
Ça sera sympa d'en parler au prochain coup. Il y a de belles choses en cours. C'est génial. Donc, avec plaisir que j'en reparlerai. Et j'espère que cette fois je pourrai venir te rendre une petite visite à Cannes pour profiter de la mer et du soleil aussi, ce sera sympa.
Ah bah ouais, parce que là, je sais, là, au moment où on tourne, on est quand ? On est au mois de janvier. Voilà, chez nous, il fait 13. Là, 13 degrés, avec un beau soleil. Bon, là, ça se voit pas parce que je suis dans le noir, mais en tout cas... Bon, toi aussi, j'ai vu qu'il y avait quand même
du soleil. Ouais. On a du soleil. Après, j'ai un bureau qui est exposé en plein soleil. Je peux te dire que je crève de chaud parce que vu que c'est un enregistrement, bah, j'ai coupé... J'ai coupé la clim et les fenêtres sont fermées, donc je suis en train de fondre.
Bon, là, t'as mouillé la chemise à la Cristiano Ronaldo.
Je me suis mis à 100%. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Geek du Chiffre.
Bon, super, merci.
C'est vraiment sympa cette interview. Merci à toi, l'échange, il était top. Et je suis super honoré d'avoir été invité à faire ce podcast.
Plaisir partagé. Salut, mon cher Joël.
Salut, Nicolas. Ciao.